Vous écoutez On lit pour vous.
La climatisation peut-elle rendre malade? Ce réflexe courant peut provoquer maux de tête, gorge sèche et coups de froid. Un texte de Annabelle Iglesias, paru le 23 juin 2026 dans Futura Science. La climatisation ne provoque pas directement un rhume ou une grippe. En revanche, elle peut créer des conditions favorables au développement d'infections. On démêle le vrai du faux. En ce moment, la climatisation tourne à plein régime dans les voitures et dans les maisons et bâtiments équipés. Si elle rafraîchit les corps, elle peut aussi être à l'origine de certains désagréments. Une irritation des voies respiratoires. La climatisation diffuse un air froid et sec qui peut irriter les voies respiratoires et diminuer certaines défenses locales au niveau du nez et de la gorge. Dans ces conditions, les virus respiratoires pénètrent plus facilement dans l'organisme. Une étude, publiée en 2018 dans la revue Clinical and Translational Allergy, soulignait que plus la différence de température entre l'air extérieur et l'air d'un endroit climatisé était importante, plus le risque d'irritation des voies respiratoires était grand, notamment chez les personnes fragiles. Au-delà du risque accru d'être contaminé par un virus respiratoire, l'air sec de la climatisation peut provoquer des symptômes gênants tels qu'une sécheresse oculaire et une sécheresse de la gorge. Mais le problème le plus fréquent avec la climatisation est le choc thermique. Il survient quand le corps passe sans transition d'un air très chaud à un air très froid. Par exemple, quand vous réglez votre clim de voiture à 18 degrés Celsius, alors que quelques secondes auparavant vous étiez dehors sous 35 degrés Celsius. Conséquence, l'organisme subit un stress qui peut entraîner des maux de tête ou encore la sensation d'avoir un torticolis lié à un coup de froid. C'est pourquoi il est recommandé de se limiter à un différentiel de 4 à 5 degrés Celsius entre la température intérieure et extérieure et de ne pas mettre la clim quand il fait moins de 26 degrés Celsius dehors. La clim peut rendre malade quand elle est mal entretenue. Lorsqu'ils sont mal entretenus, les systèmes de climatisation peuvent être à l'origine de problèmes de santé. En effet, des moisissures, des bactéries, des allergènes et des poussières peuvent s'y accumuler et donc être diffusées dans l'air quand la clim est en route. Dans un guide publié en 2009, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, rappelait que l'humidité et la prolifération microbienne dans les bâtiments augmentent le risque de symptômes respiratoires, d'asthme et d'infections respiratoires. Un risque possible, mais rare, de légionellose. Bien que rare, des cas de légionellose ont été associés à des systèmes de climatisation mal entretenus. La légionellose est une maladie pulmonaire provoquée par des bactéries du genre Legionella. Ces bactéries sont présentes dans l'eau douce et ont tendance à proliférer dans les systèmes d'air conditionné. La légionellose peut se manifester sous la forme d'un état grippal, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, quand la bactérie ne pénètre pas dans les poumons. Elle guérit spontanément en quelques jours. La forme pulmonaire est quant à elle bien plus grave. En l'absence de traitement, la maladie peut évoluer en insuffisance respiratoire irréversible et provoquer une insuffisance rénale aiguë, souvent mortelle. La clim a plus d'avantages que d'inconvénients. Les épisodes de canicule se multiplient depuis plusieurs années déjà. Plus intenses, plus fréquents et plus longs, ils mettent les organismes à rude épreuve. La climatisation est nécessaire, voire indispensable, pour les personnes fragiles, pour mieux supporter la chaleur. Son utilisation permet de réduire le risque de problèmes de santé liés à la canicule et améliore certaines maladies respiratoires pendant les vagues de chaleur. Les effets de la chaleur sur la santé sont souvent bien plus importants que ceux de la climatisation. C'était « La climatisation peut-elle rendre malade ?» Ce réflexe courant peut provoquer maux de tête, gorge sèche et coups de froid. Un texte de Annabelle Iglesias, paru le 23 juin 2026 dans Futura Science.
Que se passerait-il si vous ne mangiez que des fruits? Un texte de Rédaction Futura, paru le 2 juillet 2026 dans Futura Science. Se nourrir presque exclusivement de fruits crus, c'est le pari du régime frugivore. Séduisant sur le papier, ce mode d'alimentation parmi les plus restrictifs qui soit inquiète les nutritionnistes. Entre vrais bienfaits des fruits et risques sérieux de carence, où placer le curseur? Le régime frugivore est une forme particulièrement stricte de régime végétalien. Il exclut tous les produits d'origine animale, laitage compris, et repose principalement sur la consommation de fruits crus. Légumes, fruits secs, noix et graines y sont tolérés avec modération, tandis que céréales, légumineuses et tubercules sont fortement limités, voire bannis, tout comme l'ensemble des aliments cuits. Tour d'horizon de ses atouts et de ses dangers. Les bienfaits réels des fruits. Consommés avec mesure, les fruits constituent un pilier d'une alimentation saine. Ils apportent d'abord des fibres, précieuses pour faire baisser le cholestérol et favoriser un bon transit. Pommes, poires, mûres et framboises en sont riches. Les agrumes, poivrons rouges et fraises, regorgent quant à eux de vitamine C, bénéfique pour les dents, les gencives et le système immunitaire. D'autres fruits, comme la banane, la goyave, le melon ou la mangue, sont une bonne source de potassium, utile au maintien d'une tension équilibrée et à la régulation des fluides corporels. Les agrumes et les fruits tropicaux fournissent aussi des folates qui participent à la production de globules rouges et au bon développement du fœtus. Enfin, prunes, pruneaux et baies en tout genre sont gorgées d'antioxydants qui limitent la formation de radicaux libres et aident à protéger la peau et à se défendre contre les maladies. Des carences difficiles à éviter. Le revers est sérieux. Plusieurs nutriments essentiels font cruellement défaut dans une alimentation centrée sur les fruits, protéines, lipides, calcium, vitamines du groupe B et acides gras oméga-3. En raison de cette restriction extrême, la malnutrition devient une préoccupation majeure. L'organisme peut même basculer en mode survie. Le métabolisme ralentit pour préserver ses réserves et économiser l'énergie. À la clé, possibles anémies, fatigue et affaiblissement immunitaire, tandis qu'un déficit prolongé en calcium expose à terme à l'ostéoporose. Autre écueil, ce régime reste très riche en sucre, certes naturel, ce qui le rend peu adapté aux personnes diabétiques, prédiabétiques, atteintes du syndrome des ovaires polykystiques ou d'une résistance à l'insuline. Un cadre indispensable. Le régime ne suivant aucune règle figée, il peut, dans une certaine mesure, être adapté à ses propres besoins. Plafonner la part des fruits autour de la moitié de l'assiette et y ajouter des sources de protéines comme des noix contribue à atténuer ces déficits. Si l'on souhaite tout de même s'y essayer, mieux vaut procéder par étapes, plutôt que du jour au lendemain. Réduire progressivement alcool, produits animaux, céréales, aliments transformés et caféine, tout en introduisant peu à peu fruits crus, noix, graines et légumes. Un signal d'alerte mérite enfin l'attention. Ce mode d'alimentation pourrait ne pas fournir assez d'énergie pour pratiquer une activité physique, pourtant indispensable à la santé. Si tel est le cas, c'est le signe qu'un réajustement nutritionnel s'impose. Compte tenu des risques, il est vivement conseillé de consulter un médecin et un diététicien avant d'adopter ce régime afin d'identifier ses propres vulnérabilités et de combler d'éventuelles lacunes nutritionnelles. C'était « Que se passerait-il si vous ne mangez que des fruits ?» un texte de rédaction Futura, paru le 2 juillet 2026 dans Futura Science.
Le monde caché des baleines, maintenant visible grâce aux biopsies et aux balises. Un texte de Benjamin Gagné, paru le 18 juin 2026 dans Baleines en direct. La recherche sur les mammifères marins est remplie d'obstacles. Les scientifiques doivent étudier des animaux massifs qui habitent dans un environnement gigantesque et qui passent la majorité de leur temps loin de la surface. Les technologies développées pour la recherche sur ces espèces doivent prendre ces facteurs en compte afin de récolter des données utilisables et en assez grande quantité. Depuis plusieurs années, l'utilisation de biopsies, prélèvements de peau et de gras, et de balises satellitaires, capteurs attachés aux animaux, permet d'analyser le monde des baleines comme jamais auparavant. Les nombreuses informations récoltées sur la santé, les déplacements et le comportement sont indispensables pour mieux comprendre et protéger ces géants. L'utilisation de technologies invasives. Ces deux techniques sont dites invasives car elles impliquent de transpercer l'épiderme, la couche superficielle de la peau et le gras externe. Les biopsies retirent un petit échantillon de l'animal alors que les balises transpercent la peau et une partie du gras externe pour rester installées plus longtemps que si elles étaient simplement posées à l'aide de ventouses sur le dos de l'animal. Pour comprendre l'intérêt de ces techniques, il faut remonter un peu dans le temps. Il y a de cela une trentaine d'années, on écrivait des articles scientifiques sur les techniques de recherche non destructives qui ne tuent pas l'animal étudié, qu'on utilisait encore à l'époque. L'évolution de la science a accompagné l'évolution des mentalités. En plus d'un gain éthique, comme on ne tuait plus l'animal étudié, on pouvait nouvellement noter les changements remarqués sur un même individu entre les années. Quel est l'impact sur l'animal? C'est une question qui est extrêmement importante afin d'être certain que la recherche qui est faite ne crée pas plus de problèmes qu'elle souhaiterait régler. Les biopsies. Les recherches récentes sur les biopsies démontrent que l'impact comportemental serait minime lors du prélèvement, de même que presque inexistant sur la reproduction et le retour sur les sites d'études. Par exemple, les grands rorquals, à bosse, communs et bleus, ne démontrent aucune réaction comportementale de 40 à 90 % du temps. Même lorsqu'il y a des réactions, celles-ci restent principalement dans la catégorie des faibles réponses, mouvement de la nageoire caudale, légère accélération, etc. Le seul cas répertorié de mortalité lors de processus de biopsie remonte à l'an 2000 et concerne un dauphin commun dont la condition physique semblait particulièrement précaire et qui est mort moins de 20 minutes après le prélèvement. Depuis plusieurs années, la vigilance des équipes s'est accrue pour éviter de cibler les individus qui montrent des signes d'une santé précaire. Les balises satellitaires. Pour les balises, les effets comportementaux sont également généralement de courte durée. Dans le Saint-Laurent, par exemple, des balises posées sur des baleines noires montrent une reprise de l'alimentation dans les minutes suivant la pause. Ailleurs, chez les rorquals à bosse, peu de réactions comportementales à la pose de balises ont été notées, mis à part l'accélération prévisible en présence de bateaux. De plus, les individus étudiés sont retournés au même site 100 % du temps lors d'années subséquentes et ont continué de se reproduire. Les balises satellitaires utilisées sur les espèces du Saint-Laurent laissent généralement des marques visibles comme une décoloration de la peau ou une légère dépression pendant quelques mois, même si ces dernières demeurent généralement bénignes et superficielles. Dans certains cas, par contre, la guérison peut être plus longue sans toutefois compromettre la survie de l'animal. Par exemple, les 27 baleines noires munies de balises satellitaires entre 2019 et 2022 ont toutes été revues vivantes l'année suivante. L'une d'elles, qui présentait une enflure notable au site d'implantation de la balise dans les jours suivant la pose, a été revue l'année suivante portant des marques de décoloration qui persisteront vraisemblablement pour quelques années. Une utilité indéniable. Certaines données chez la population vivante ne sont simplement pas accessibles avec les méthodes de recherche les plus courantes, comme la photo-identification et la photogrammétrie. On peut penser aux analyses hormonales ou migratoires, par exemple. Plusieurs hormones, comme la progestérone et la testostérone, sont lipophiles et facilement détectables dans les couches supérieures du gras externe des cétacés. L'étude des taux de progestérone est notamment utile pour mettre en lumière les gestations chez les femelles baleines. Une étude de 2025 fait d'ailleurs état de cette méthode et du fait que les petits rorquals du Saint-Laurent sont majoritairement des femelles dont la plupart sont gestantes. L'examen du rapport de certains isotopes stables dans la peau permet quant à lui de surveiller à long terme le régime alimentaire des espèces comme cela a été fait chez le beluga, le rorqual commun et plusieurs autres espèces. L'étude des acides gras, nutriments énergétiques hautement présents dans les lipides et le gras externe des baleines, permet chez des espèces comme le beluga de déterminer l'âge de l'individu à une précision allant de 3 à 5 ans. Les balises, pour leur part, donnent de l'information particulièrement intéressante quant au mouvement migratoire des populations ou à la récurrence ou la persistance des animaux à utiliser certains habitats en enregistrant des données GPS, comme pour les rorquals bleus ou les rorquals communs. En comprenant mieux leurs déplacements, il est possible de développer des techniques de conservation ciblées aux endroits importants pour ces espèces à protéger. Dans le cas des cétacés, le défi est grand car leur terrain de jeu peut s'étendre sur l'ensemble d'un bassin océanique. Ajoutons les analyses d'ADN, de la structure sociale et de la dynamique des populations. Les technologies intrusives font partie intégrante de notre capacité à comprendre ces espèces marines. De la nouveauté dans le monde de la recherche. Des méthodes non-invasives existent aussi. Le prélèvement d'ADN ou de microbiote cutané par frottage de la peau ou prélèvement dans le souffle à l'aide de drones, la collecte des fesses, des baleines flottant dans l'eau, l'analyse d'échantillons d'eau comprenant l'ADN des espèces présentes, comme le projet d'ADN environnemental Code Beluga, ou encore l'écoute passive des sons des baleines sont tous pertinents à leur manière, selon les objectifs des projets de recherche. C'était le monde caché des baleines, maintenant visible grâce aux biopsies et aux balises. Un texte de Benjamin Gagné paru le 18 juin 2026 dans Baleine en direct.
5 façons faciles de se faire tuer à vélo à Montréal. Un texte de Juliana Léveillé-Trudel, paru le 6 mai 2026 dans le magazine Urbania. Il y a trop de chars à Montréal, Soraya. Permettez que je vous appelle par votre prénom, vous qui avez tellement insisté pour nous convaincre que vous étiez une personne accessible, proche de la population. Alors, faisons comme si nous prenions un café dans ma cuisine d'Hochelaga, la circonscription que vous avez représentée durant 5 ans à la Chambre des communes. Il y a trop de chars à Montréal, donc. Je ne vous parlerai même pas des enjeux environnementaux, car ils ne me semblent pas peser lourd dans les décisions de votre parti. J'irai donc plus simplement. Je vais parler de mathématiques. Vous aimez ça, les chiffres, non? Entre 2004 et 2017, à Montréal, le nombre de véhicules est passé de 854 000 à 969 000, une croissance de 50% plus rapide que celle de la population. Elle ne s'est pas étirée jusqu'à boucher le fleuve et la rivière des Prairies pour accueillir tous ces chars. Elle ne s'est pas raccrochée directement à la rive sud et à l'aval pour nous éviter le bordel des ponts. Le réseau routier de la métropole comprend environ 4050 km de voies de circulation. Selon une étude récente de Polytechnique, 78% de cet espace est destiné à l'auto, contre 20% aux piétons, 1,5% aux infrastructures cyclables et 0,5% aux transports collectifs. Depuis que je suis devenue montréalaise en 2005, j'utilise ces maigres 22% au maximum. Il m'a fallu quelques années avant d'oser le cyclisme utilitaire. J'ai grandi au fond d'un rang des cantons de l'Est, vous comprenez? Pour moi, la bicyclette, c'était rouler dans la gravelle sur des routes où il ne passait jamais plus d'une voiture à l'heure. Je me souviens encore de ce matin de printemps où un charmant collègue rosemontois m'avait ramené à l'UQAM sur son vélo. Le vertige d'être frôlé par les voitures sur Saint-Denis. À l'époque, le rêve n'existait même pas encore en rêve. Je vous raconte tout ça parce que j'ai l'impression que vous vous déplacez rarement sur deux roues. Alors, je vous propose de monter derrière moi, le temps d'un trajet que j'aimerais bien effectuer plus souvent, mais je me garde une petite gêne, vu la dangerosité du parcours. Nous partons d'Hochelaga, évidemment. Nous allons à Montréal-Nord, à la bibliothèque Henri Bourassa, plus précisément. Depuis que j'ai eu la chance d'y être écrivaine en résidence entre 2016 et 2017, on m'engage régulièrement pour y donner des ateliers d'écriture ou faire du mentorat. Roulons d'abord vers l'est sur de Rouen, sur cette si judicieusement nommée piste partagée. En gros, ça veut dire un vélo peinturé sur l'asphalte pour rappeler aux automobilistes qui l'ignorent parfois que les cyclistes sont bel et bien autorisés à utiliser la voie de circulation. Mais ça offre à peu près autant de protection qu'un casque périmé. De Rouen est une rue étroite, à deux sens, bordée d'espaces de stationnement toujours pleins. Petit 1, se faire emportiérer. Depuis mon propre emportiérage en 2016, qui m'a laissé avec un genou droit capricieux, je suis littéralement incapable de rouler à moins d'un mètre d'un véhicule stationné. Un genre de choc post-traumatique, j'imagine. Mais voilà, sur des rues comme de Rouen, quand le conducteur derrière vous s'impatiente, incapable d'attendre 3 secondes et demie pour vous dépasser de façon sécuritaire, je serre les dents et je frôle les portières qui pourraient me catapulter sur l'asphalte. Tournons ensuite sur De Chambly, encore une piste partagée, aux joies, et montons vers le nord, où elle se transforme en la 16e avenue. La rue est à sens unique vers le sud, sauf pour les vélos, et c'est là que surgit le prochain piège, qui referme ses mâchoires à l'intersection du boulevard Rosemont. Petit 2. Se faire percuter par le conducteur d'un VUS qui prend son virage trop serré. Ils arrivent à pleine vitesse et s'engagent sur la 16e sans ralentir, du car spreading à fond la caisse sur la voie cyclable, même si, à cette hauteur, de belles bandes blanches délimitent une section strictement réservée aux vélos. Si nous sommes toujours vivantes, continuons jusqu'à Villeray. Bifurquons brièvement vers l'est, jusqu'à la 17e avenue, qui nous permettra de passer sur l'autoroute métropolitaine. Mais attention, il faut rouler sur le trottoir durant la traversée. Ensuite, nous progressons tranquillement dans Saint-Léonard. Jean Rivard, Jean Nicolet, des galets. Le hic, c'est que pour se rendre jusqu'à l'extrémité nord de la ville, il faut impérativement franchir la Grande Muraille, soit le boulevard industriel. Et à cette hauteur, devinez quelle est la seule option? Lacordaire. Comme dans Rêve Lacordaire, dont la construction vient d'être suspendue par votre administration. Allons-y quand même, et étonnez-vous bien, Soraya. Petit 3. Se faire buter par un automobiliste qui roule le double de la vitesse permise. Lacordaire est un boulevard que les conducteurs confondent souvent avec une autoroute. Je veux bien, exceptionnellement, rouler sur le trottoir. Pardonnez-moi, ami piéton, l'autocentrisme génère une compétition entre les autres moyens de transport. Sauf que dans cette mer de stationnement accolée aux centres commerciaux et aux bâtiments industriels, même lui ne peut garantir notre sécurité. Petit 4. Être renversé à l'entrée ou à la sortie d'un stationnement. Si nous échappons à tous ces périls, nous déboucherons finalement sur le boulevard Henri Bourassa. Et malheureusement, dans l'Est, nous ne pouvons compter sur le rêve qui s'arrête à l'avenue des Récollets. Pour mémoire, il devait se rendre jusqu'à Lacordaire, mais, encore une fois, votre parti laisse entendre qu'il pourrait abandonner cette dernière section, voire carrément démolir celle qui vient d'être construite. Ainsi, en l'absence de pistes cyclables, même partagées, sur ce colossal boulevard à six voies, tous les dangers précédemment cités nous guettent alors que nous sommes presque arrivés à notre destination. Je pourrais en profiter pour souligner que les secteurs les plus défavorisés de la ville sont les moins bien desservis en infrastructures cyclables, mais j'ose espérer que vous l'aviez déjà remarqué. Et finalement, sur ce colossal boulevard à six voies comme partout ailleurs, une énième menace plane. Petit 5. Se faire frapper par un conducteur obnubilé par son cellulaire. Si vous saviez cette angoisse qui me saisit quand j'aperçois seulement le dessus d'un crâne, preuve irréfutable d'un automobiliste penché sur son appareil. Combien de fois appuie-t-il automatiquement sur la pédale à essence, sans même relever la tête, ignorant la personne qui traverse à pied ou à bicyclette derrière les pare-chocs de plus en plus imposants des véhicules de plus en plus gigantesques ? Mais soyez rassurés, Soraya, pour vous, ce n'était là qu'un exercice théorique. Je vous dépose à la bibliothèque et vous pouvez rentrer en voiture. Pour nous, c'est un combat de tous les jours. Et pourtant, malgré la peur, je vous le confesse, j'adore pédaler dans ma ville. Je vous souhaite d'un jour faire l'expérience de cette joie indicible, dévaler une côte, le vent caressant votre visage, le soleil chauffant votre peau. Connaissez-vous un seul automobiliste qui rayonne de bonheur après avoir conduit à Montréal ? Et même si vous enleviez toutes les pistes cyclables, tous les trottoirs, et que vous ajoutiez des kilomètres d'autoroute, cela n'y changera rien. La congestion n'est la faute ni des cyclistes ni des piétons. Elle est générée par les automobilistes eux-mêmes. Plus on donne d'espace aux voitures, plus elles en prennent. Et notre île aura toujours la même taille. C'était 5 façons faciles de se faire tuer à vélo à Montréal. Un texte de Juliana Léveillé-Trudel, paru le 6 mai 2026 dans le magazine Urbania.